Bonjour Pierre.
Les dessous de l'infox. Sophie Malibaud.
Et bonjour à vous, bienvenue dans les dessous de l'infox. Des chiffres alarmants sur l'autisme aux États-Unis ont donné lieu ces derniers jours à des déclarations exubérantes au plus haut sommet de l'État. Et c'est la machine à désinformer qui s'emballe sur les réseaux sociaux avec le retour de vieilles théories conspirationnistes sur les vaccins. C'est le moment de faire le point avec un spécialiste des virus et des vaccins, le professeur Frédéric Tanguy. Est notre invité aujourd'hui, il nous aide à y voir plus clair sur un sujet aussi complexe que sensible. Nous retrouvons ensuite la chronique de Grégory Genevrier de la cellule Infovérif de RFI. Il épingle plusieurs infox sur les équipements militaires de l'armée malienne. On voit circuler sur TikTok notamment des montages trompeurs qui circulent de façon virale. On va analyser tout ça. Mais tout de suite, notre invité. Bonjour Frédéric Tanguy.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur du laboratoire d'innovation vaccinale de l'Institut Pasteur et directeur de recherche au CNRS et puis directeur scientifique de la société Oncovita. Vous êtes donc expert en virologie et en vaccins. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la désinformation sur les vaccins. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages « L'homme façonné par les virus » et puis aussi « Les vaccins pour les nuls ». On comprend avec ce titre que vous estimez que dans votre position de chercheurs, c'est important de donner des explications, de faire de la vulgarisation sur les vaccins.
Alors c'est toujours important de la part des chercheurs d'expliquer ce qu'ils font au public, bien évidemment, parce qu'on fait des choses qui ne sont pas simples. Il faut employer des mots simples pour les expliquer, donc la vulgarisation est extrêmement importante. Les vaccins particulièrement, parce qu'il suffit de rappeler que dès le premier vaccin de Jenner en Angleterre contre la variole, au XVIIIe siècle, il y a déjà eu des campagnes de désinformation avec des affiches où on voyait les individus vaccinés à qui poussaient des cornes et des queues parce que le vaccin était tiré du virus de la vaccine de la vache. Donc oui, la désinformation, ça a toujours existé sur les vaccins. C'est un sujet très délicat parce qu'il ne faut pas perturber les populations. Parce que rappelons que le vaccin n'est pas un produit de santé individuel comme va l'être le Doliprane ou un somnifère qu'on prend chacun pour soi pour régler un problème personnel. Le vaccin, c'est un instrument de santé publique. Donc ça concerne une population entière. Et selon que cette population est plus ou moins vaccinée, on va protéger ou pas des maladies infectieuses.
Alors le grand paradoxe, c'est que la science progresse sur les vaccins, mais la désinformation aussi. Dans quelle mesure, selon vous, cette désinformation entrave l'accès des populations aux vaccins aujourd'hui?
On peut dire relativement faible. Ça dépend des périodes. Il y a des vagues. Il y a des vagues de désinformation avec des taux de vaccination qui baissent.
Il y a eu une grosse vague de désinformation au moment du Covid.
Alors, il y a eu au moment du Covid, il y a eu même avant. Rappelons aussi l'histoire de l'association de la rougeole avec l'autisme. On va revenir à l'autisme, qui était issu d'un papier complètement faux, qui a été totalement invalidé en 1978, mais qui a fait énormément de mal, avec une réaugmentation des cas de rougeole de 20 à 25% en Angleterre. Donc là, on était dans une grosse période de désinformation vaccinale. Puis ensuite, au fur et à mesure, effectivement, des découvertes et des avancées, il y a toujours des allers-retours entre on avance, on recule. Ce qu'il faut dire, c'est très important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une innovation technologique dans le domaine des vaccins, ça fait peur au public et il y a toujours des personnes qui sont intéressées à rouler sur la vague de cette peur et à augmenter la peur.
Alors, au centre de l'attention ces derniers jours, il y a des déclarations assez contestables sur l'autisme à la suite d'un nouveau rapport du CDC américain qui donne des taux de prévalence de cette maladie en très très forte augmentation. Du coup, ça a donné lieu à des déclarations de la part de l'administration américaine et même d'ailleurs directement du président Trump. On va l'écouter tout de suite. C'était le 10 avril dernier.
It was one in 10,000 children had autism
Le président Trump rappelle qu'autrefois, c'était un enfant sur 10 000 atteint par l'autisme. Et maintenant, c'est 1 sur 31. Pas 31 000, mais 31, insiste-t-il. Ce sont d'horribles statistiques, dit-il. Et d'ajouter, il doit y avoir une cause artificielle. Donc, vous pensez avoir une idée de ce que c'est, dit-il en s'adressant à son ministre de la Santé. On en parlera en septembre, répond Robert Kennedy Jr. Et Trump reprend, il n'y aura pas de plus grande conférence de presse. Comme ça, vous nous donnerez la réponse. Est-ce qu'il faut arrêter de prendre quelque chose, arrêter de manger certaines choses, ou peut-être que c'est à cause d'une injection? Mais il y a quelque chose à l'origine de ça. Passer de 1 sur 10 000 à 1 sur 31, c'est énorme.
That's a big number.
Donc, le président Trump qui fait cette allusion, maybe it's a shot, on comprend, peut-être il s'agit de l'injection, on ne sait pas tout à fait à quoi ça fait référence, sauf que les milieux complotistes, eux, le savent très bien. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos,
oui,
professeur Tanguy?
Revenons sur le chiffre d'abord, l'incidence de l'autisme. C'est vrai qu'il augmente. Ce chiffre augmente aussi en Europe et en France. Actuellement, en France, l'incidence, c'est-à-dire le taux d'apparition du nombre de cas d'autistes par an, est environ en moyenne d'un petit pourcent, 0,8 à 1% de la population. Donc on n'est pas au 1 sur 31 dont il parle, qui serait donc plutôt du 3%. Alors pourquoi ce chiffre? Je ne suis pas un spécialiste de l'épidémiologie de l'autisme. La seule chose qu'on sait actuellement, c'est que le diagnostic a été élargi et que maintenant on parle de troubles du spectre autistique dans lesquels on ajoute donc de nombreux patients qui n'étaient pas diagnostiqués autistes auparavant et que rien que ce fait-là, ça peut tout à fait augmenter par 3 le nombre de cas diagnostiqués. Ceci dit, c'est énorme. C'est beaucoup de cas, effectivement, et c'est un problème dans la société américaine comme dans la société européenne.
Oui, mais alors vous savez qu'à cet argument, le ministre de la Santé américain, donc Robert Kennedy Jr., lui, il explique qu'on fait de l'idéologie quand on dit ça et que, en fait, c'est un faux argument, c'est que l'on veut cacher quelque chose aux populations. Voilà comment il présente les choses.
Oui, ça s'appelle du complotisme. C'est curieux que ça vienne de la part d'un ministre. Maintenant, si l'autisme était une maladie acquise par l'environnement, par de la nourriture, par des contaminants de je ne sais quoi, voire par un vaccin, parce qu'effectivement, c'est suggéré à la fin de la phrase « maybe it's a shot », qui veut dire « c'est peut-être une injection », va falloir le démontrer. Si c'était une maladie acquise et qu'on puisse la protéger, ce serait une excellente nouvelle. Qu'on se pose la question, c'est pas mal, mais qu'on accuse d'emblée un vaccin, c'est une erreur, parce qu'en fait, le premier vaccin qui a été suspecté d'être à l'origine de l'autisme, mais aussi de la maladie de Crohn à la fin des années 70, ce problème, j'en ai parlé tout à l'heure, est apparu à la suite d'un travail qui était complètement faux, qui a été invalidé par des dizaines d'études par la suite, et un travail qui était faux parce qu'il avait été triché, et l'auteur de l'article avait même reçu de l'argent pour tricher ces informations. Ça a été largement démontré. Depuis, on sait parfaitement, il était question du vaccin rougeole, du vaccin ROR même, du mélange rougeole-oreillon-rubéole. On va y revenir dans la suite. Ce vaccin est extrêmement efficace et a même des effets bénéfiques au-delà des trois maladies qu'il protège, n'est absolument pas associé à l'autisme. Alors, rechercher une cause de l'autisme, c'est une très bonne chose. À l'Institut Pasteur, on a un excellent chercheur, Thomas Bourgeron, qui a été le premier à démontrer des causes génétiques dans l'autisme et qui, depuis, a découvert un grand nombre de gènes qui donnent une susceptibilité à l'autisme. Et c'est beaucoup plus difficile que de se dire c'est une maladie génétique, parce que c'est une maladie avec polygénétique. Donc il y a plusieurs gènes qui peuvent être impliqués, soit indépendamment, soit en mélange. Et donc, c'est extrêmement compliqué de mettre le doigt sur la cause, une cause unique de ce spectre de maladie.
Mais alors là encore, des informations. Écoutez ce que disait dans la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi le ministre de la Santé américain, donc Robert Kennedy Jr., à propos des causes. On attend le résultat d'une étude à l'horizon septembre, mais lui a déjà la réponse.
C'est une maladie évitable. On sait que c'est dû à une exposition environnementale. C'est forcément cela. Les gènes ne causent pas d'épidémie. Cela peut occasionner une vulnérabilité, mais il faut une toxine environnementale. Et il faut reconnaître que c'est nous qui faisons cela à nos enfants.
Alors, professeur Tanguy, sur la page même de l'Institut Pasteur, on voit à propos de ce spectre de l'autisme qu'en fait, il y a une prédominance génétique. C'est totalement contradictoire avec ce que nous dit aujourd'hui le ministre américain.
Pas tout à fait, c'est plus fin que ça. Il a raison, les gènes ne causent pas d'épidémie. Les gènes se transmettent verticalement et les épidémies se transmettent horizontalement dans la population. Les gènes donnent une susceptibilité à une maladie. Alors, ou bien ils sont totalement responsables par l'accumulation des modifications génétiques, ou bien ces modifications génétiques entraînent une susceptibilité à d'autres problèmes qui peuvent être de tout ordre, qui peuvent être environnementaux, bien sûr, mais avant, qui peuvent être d'ordre psychologique. Vous savez qu'un enfant, dans ses 1000 premiers jours, les travaux de Boris Cyrulnik et de nombreux autres pédopsychiatres, dans les 1000 premiers jours, l'enfant construit son réseau neuronal sur le terme affectif, environnemental, comment il va se comporter avec les autres, comment il va interagir. Il suffit d'avoir peut-être un défaut génétique de certaines molécules et avoir une mauvaise orientation pendant ces 3 premières années de la vie pour se diriger vers l'autisme, ou même pendant les premières semaines de la vie. Donc, et bon, l'environnement, etc., beaucoup de causes. Peut-être des injections vaccinales pourraient être en cause. Pour l'instant, ce n'est pas démontré. Donc, effectivement, il faut faire des études approfondies pour le démontrer. Ce sont des études extrêmement compliquées à faire.
Mais vous pensez qu'à l'horizon du mois de septembre, puisque c'est ce qui est prévu, on aura la réponse sur la cause de l'autisme ?
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Pourquoi vous en êtes si sûr ?
Parce que c'est des études qui sont très longues. C'est des études, d'une part, il y a des études de laboratoire sur des modèles, et puis d'autre part, il y a des études épidémiologiques sur les populations qui sont longues et qui nécessitent de collecter beaucoup d'échantillons, de travailler, d'aller rechercher beaucoup d'informations génétiques à très très haut débit. Et ce n'est pas des études qu'on fait en 6 mois.
Alors, à quoi peut-on s'attendre à l'horizon septembre ? Un peu de désinformation, de fausses pistes ?
De la part du ministre de la Santé américaine, pas grand-chose, je pense. Je pense que c'est beaucoup de bruit. C'est toujours la même chose avec ce gouvernement américain. C'est beaucoup de bruit pour satisfaire son électorat, pour ébranler la communauté et espérer faire bouger les choses. Alors si ça fait bouger, pourquoi pas ? Mais comme dans le même temps, le même gouvernement diminue les crédits de recherche, on ne voit pas comment c'est compatible, l'idée de vouloir faire bouger la recherche dans un domaine et en même temps avoir envie de moins la financer.
Oui, il risque de sponsoriser en fait des chercheurs qui iront dans le sens voulu par l'administration.
J'espère que ça n'ira pas dans ce sens-là, non.
Ce qui s'est passé pour la rougeole, Robert Kennedy Jr. a à un moment donné quand même fait beaucoup de désinformations sur le vaccin anti-rougeole. Et là, ils viennent de voir revenir la maladie qui avait été éradiquée aux États-Unis à l'horizon 2000. Cette maladie est revenue, elle a fait des morts et lui, il a bougé sur ce sujet.
Oui, mais ça démontre la façon dont ces gens-là fonctionnent. Ils commencent par affirmer des choses parce qu'ils ne sont pas au courant de la réalité. Et puis quand ils feuillettent un petit peu les documents et qu'ils comprennent mieux ce qui se passe, ils reviennent à la vérité. En fait, la rougeole n'avait pas été éliminée. Elle était contrôlée aux États-Unis parce qu'il y a un taux de vaccination qui était relativement important, supérieur à 92-95%. Et résultat, le virus était contrôlé. Mais dès que le taux de vaccination baisse, le virus revient. Parce que c'est un virus qui n'est pas éradiqué. Je rappelle que le seul virus humain éradiqué actuellement, c'est la variole. Et encore, on a la variole du singe qui revient actuellement. Donc la rougeole n'est pas du tout éradiquée. La rougeole a un taux d'infection qui est de l'ordre de... un individu infecté peut infecter lui-même jusqu'à 18-20 personnes. Je rappelle que le Covid, c'était 2. Donc c'est 10 fois plus infectieux que le Covid. Ce qui veut dire que s'il y a quelques personnes infectées dans une population qui n'est pas totalement vacciné, le virus va se répandre. C'est ce qui arrive aux États-Unis. C'est ce qui arrive aussi en France. Actuellement, en France, on a des épidémies dans la région Rhône-Alpes et dans la région Auvergne, dans des endroits où les taux de vaccination sont insuffisants, parce que certaines personnes sont toujours réactives et refusent la vaccination. Donc la rougeole, c'est typique. Si on refuse la vaccination, le virus revient. Donc actuellement, ils s'aperçoivent aux États-Unis qu'ils ont une épidémie importante. Donc évidemment, la seule chose à faire, c'est vaccinez-vous et poussez les gens à se vacciner.
Alors on va s'intéresser maintenant à un autre narratif. Il vise cette fois le vaccin DTP ou DTC en français. En fait, diphtérie, tétanos, coqueluche. Ce sont des déclarations qui remontent à juin 2023, lorsque Robert Kennedy Jr. était en lice dans la course électorale. Alors maintenant qu'il est ministre de la Santé, des extraits de cette émission reviennent sur les réseaux sociaux, relayés notamment par des comptes qui sont de grands pourvoyeurs d'infox en Afrique. Un avertissement à nos auditeurs, ces propos sont truffés de contre-vérités. On écoute Robert Kennedy Jr.
Le vaccin le plus populaire au monde est le vaccin DTP, diphtérie, tétanos, coqueluche. Nous l'avons éliminé dans ce pays parce qu'il causait des blessures au cerveau, de sévères atteintes au cerveau, résultant par la mort d'un enfant sur 300. Nous l'avons utilisé dans les années 80 et c'est pourquoi il y a eu cette polémique contre les entreprises de vaccins qui ont précipité l'agrément pour ce vaccin en se dégageant de toute responsabilité. En Europe, ils ne l'utilisent pas. Aux États-Unis, on ne l'utilise pas. Mais en Afrique, on le donne à plus de 161 millions d'enfants chaque année.
Alors, les contre-vérités, elles sont nombreuses dans ce petit extrait, professeur Tanguy.
Oui, d'abord, la vaccination DTP n'est pas du tout arrêtée. On la pratique. Ce vaccin fait partie des vaccinations obligatoires en France. Il est totalement utilisé aux États-Unis, même s'il n'y a pas de vaccination obligatoire là-bas. Donc c'est faux de dire qu'on a arrêté d'utiliser ce vaccin.
On peut se dire que s'il est obligatoire dans un certain nombre de pays d'Europe, notamment la France, on peut se dire que les allégations d'atteinte au cerveau dues à ce vaccin-là sont peut-être douteuses.
Sont totalement nulles, déjà. Là où, par contre, il faut vraiment être précautionneux, c'est comparer les pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, le Canada, le Japon, tout ça, avec les pays du Sud, essentiellement l'Afrique. L'Afrique, la situation est totalement différente.
On va écouter parce que justement, donc il vient de nous dire que ce vaccin était effectivement utilisé en Afrique. On écoute ce qu'il a à dire dessus.
Oh, Bill Gates!
Bill Gates a demandé au gouvernement danois de soutenir ce programme et il a dit qu'il avait sauvé 30 millions de vies. Le gouvernement danois a dit « Montrez-nous les données ». Il n'a pas pu le faire. Donc ils sont allés en Afrique et ont fait leurs propres recherches. Ils ont examiné 30 ans de données sur le DTP et ce qu'ils ont trouvé les a tous choqués. Ils ont trouvé que les filles qui ont reçu le DTP mouraient 10 fois plus rapidement que les non-vaccinées. Mais elles mouraient de maladies qui n'avaient jamais été associées au vaccin. Elles mouraient d'anémie, de malaria, de biliardiose, de maladies pulmonaires, maladies respiratoires et pneumonie. Mais personne n'a remarqué pendant 30 ans que c'était les filles vaccinées qui mouraient et non pas les non-vaccinées. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ne mouraient pas de diphtérie, tétanos ou coqueluche. Le vaccin les protégeait contre ça. Mais en même temps, ils détruisaient leurs systèmes immunitaires et elles devenaient incapables de se défendre contre d'autres maladies mineures. Alors que les enfants qui avaient de meilleurs systèmes immunitaires étaient capables de les combattre.
Une grande partie de ces propos sont complètement en dehors des clous, en dehors de la réalité.
Oui, c'est le principe de la désinformation, c'est-à-dire partir de vraies informations et les déformer.
Bon, déjà, on a vérifié. Alors, Bill Gates, le gouvernement danois.
Mais jamais.
Le gouvernement danois n'a rien à voir dans cette affaire.
Enfin, surtout, Bill Gates surtout ne s'est absolument pas mis là-dessus, n'a rien demandé à propos de tout ça. Ce sont des équipes. C'est effectivement une équipe danoise, quelqu'un que je connais très très bien.
Mais qui n'a rien à voir avec le gouvernement.
Absolument rien à voir, qui pratique des études épidémiologiques et dont le but va dans le bon sens de chercher à observer quelle est la sûreté des vaccins du programme élargi de vaccination de l'OMS sur les enfants d'Afrique subéquatoriale. Et ces études ont montré dans plusieurs pays africains des choses qui sont très importantes. Effectivement, ce que j'ai envie de dire avant, c'est que ce n'est pas à un ministre de la Santé de débattre là-dessus tant qu'il n'a pas eu toutes les informations, parce que c'est extrêmement délicat. Parce qu'il y a plusieurs familles de vaccins. Et il y a des vaccins, juste un tout petit peu d'explication très simple, les vaccins vivants atténués, qui sont donc des microbes vivants, mais qui ont perdu leur pathogénicité parce qu'ils ont été atténués. Et le typique de ça, c'est la variole, le rougeole, oreillon, rubéole, fièvre jaune, polio vivant, celui qu'on prend par un sucre. Ce sont des virus vivants ou des bactéries vivantes. Ces vaccins-là, il a été démontré par les équipes danoises qu'ils améliorent la survie. Ce qui a été mesuré, c'est la mortalité infantile entre 3 mois et 9 mois ou entre 3 mois et 4 ans d'âge. Et le résultat de ces nombreuses études, ça représente beaucoup d'articles qui ont été publiés, d'articles scientifiques, c'est que les vaccins vivants, particulièrement la rougeole et le BCG, améliorent, la rougeole améliore jusqu'à 70%, réduit de 70% le risque de mortalité infantile chez les enfants vaccinés par rapport aux enfants non vaccinés. Il ne s'agit pas de la protection uniquement de la rougeole.
Voilà, c'est ça.
C'est la protection au-delà de tout type de maladie, infectieuse ou non infectieuse, pneumonie, malaria, palu. Mais quand on a été vacciné rougeole, on est protégé d'infections palustres et on est protégé de réactions allergiques, de choses comme ça.
Et donc, ce que les chercheurs cherchent à savoir aujourd'hui, c'est si le DTP pourrait fournir le même type de protection.
Et à l'inverse, effectivement, ce que ces chercheurs ont montré, c'est qu'à l'inverse, les vaccins non vivants, c'est-à-dire inactivés,
Le DTP.
Voilà, qui sont donc des fragments de virus ou de bactéries ou des virus qui ont été inactivés, en particulier au formaldéhyde, qui est une molécule chimique. Ces vaccins-là ont plutôt tendance à ne protéger que du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, dont il faut rappeler que c'est des maladies terribles, qui ont disparu de chez nous. Quand il y a à nouveau des épidémies de coqueluche qui reviennent, les parents sont extrêmement affolés pour leurs enfants. La diphtérie, c'était terrible aussi. Ont disparu grâce à cette vaccination. Mais en Afrique, la mortalité infantile est plus élevée qu'en Europe, pour tout un tas d'autres causes. Donc les enfants vont être plus sensibles. L'immunité des enfants en Afrique, totalement différente de l'immunité des Européens ou des Américains du Nord. Donc effectivement, ces études ont montré que le DTP, c'est-à-dire le polio inactivé par rapport au polio vivant, ou diphtérie, tétanos, P, c'est pertussis, c'est la coqueluche, avait tendance à augmenter légèrement la mortalité, toutes causes confondues, principalement chez les filles. C'est vrai, ça. Mais pour autant, l'OMS a décidé, et Gavi, qui est l'organisme qui s'occupe de distribuer les vaccins dans le monde, ont décidé de continuer quand même de distribuer ces vaccins et les campagnes de vaccination, parce que globalement, ils protègent plus qu'ils ne tuent. Parce que ce sont des pays où ces maladies causent encore des problèmes graves.
Donc c'est toujours
une balance bénéfice-risque qu'il faut calculer. Donc, voilà, la désinformation, ça consiste à partir d'informations scientifiques qui sont vraies, qui font du sens et qui posent un problème à l'ensemble de la communauté vaccinale, des vaccinologistes aujourd'hui, que ce soit les médecins, les chercheurs, la santé publique, les industriels, et d'en tirer, de transformer un petit fil en un tronc d'arbre. Donc voilà.
En tout cas, la science est tout le temps en recherche pour améliorer la sécurité de ces vaccins.
Mais bien sûr.
Et les propos définitifs que l'on a entendu proférer du côté de l'administration américaine sont plutôt des propos extrêmement nocifs.
Voilà, il ne faut absolument pas mettre en cause. Alors, l'industrie vaccinale, le premier objectif des essais cliniques des vaccins, c'est la sûreté. Et l'essentiel des essais cliniques qui sont réalisés sont destinés à montrer que le vaccin qui va être utilisé n'a pas d'effet toxique. Alors, au niveau d'une population, d'un pays entier ou d'un demi-continent, évidemment, ce n'est pas des études qu'on fait en 2 ans. C'est des études qui peuvent se faire en 10 ans. C'est avec beaucoup de recul, beaucoup de cas, ou des cas contrôle, etc. Donc, on n'a pas la réponse tout de suite. C'est très important de ne pas déstabiliser les politiques de santé publique en matière de vaccins, qui sont, je l'ai déjà dit, des produits de santé publique et non pas des médicaments individuels. Donc c'est au niveau d'une population qu'on doit contrôler ce qui se passe. Et de tels propos vont risquer de perturber la population qui va dire « Ah, mais le ministre a dit que c'était peut-être ce vaccin qui donnait ça, l'autisme ou je ne sais quoi, je ne vais pas faire vacciner mes enfants ».
Merci à vous, Frédéric Tanguy, spécialiste des virus et des vaccins à l'Institut Pasteur. Alors ajoutons qu'en France, la désinformation en matière de santé est prise très au sérieux. Aujourd'hui même, le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, Yannick Noether, a décidé de faire de ce sujet une priorité stratégique. Cela commence par la signature d'une charte nationale contre la désinformation en santé. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail ici même.
Les dessous de l'Infox.
C'est à présent l'heure de la chronique de Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI. Et on met tout de suite le cap sur le Mali où la crise diplomatique avec l'Algérie s'enlise. Les relations entre les deux pays voisins se sont dégradées après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à Tinzaouaten dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Dans ce contexte, de nombreuses Infox circulent sur les réseaux sociaux, notamment à propos des capacités militaires des deux pays. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
La dernière rumeur en date affirme à tort que l'armée malienne aurait reçu ces derniers jours des avions de combat modernes fabriqués en Russie et puis aussi aux États-Unis, Grégory.
Oui, à en croire les dizaines de vidéos mensongères qui circulent sur TikTok à ce sujet, l'armée malienne viendrait de recevoir plusieurs modèles du célèbre F-35 américain. Cet avion de combat furtif, multirôle de cinquième génération, figure aujourd'hui parmi les chasseurs les plus performants au monde. Mais en réalité, l'armée malienne ne dispose pas de ce type d'appareil.
Alors sur quoi s'appuie cette fausse information ?
Eh bien, tout repose sur une vidéo de 2 minutes dans laquelle on voit un convoi militaire filmé à la sortie d'une autoroute. Alors rapidement, on constate 2 incohérences. D'abord, le convoi ne comporte que des véhicules terrestres, notamment des blindés de reconnaissance de type Fennec. Et puis l'environnement, la végétation et les panneaux de circulation ne correspondent pas au paysage malien.
Alors que montre réellement cette vidéo, Grégory ?
Alors grâce à une recherche par image inversée, on sait que ces images ont été filmées en Allemagne et diffusées sur YouTube en novembre dernier. La légende parle du 8e bataillon de reconnaissance de Freyung sur la route vers le centre d'entraînement de Kolblitz dans le nord-est du pays. Information que nous avons pu vérifier en géolocalisant précisément la scène grâce à des outils de cartographie satellite comme Google Maps.
Et puis d'autres rumeurs parlent aussi de l'arrivée au Mali de chasseurs russes Sukhoi 35.
Oui, c'est ce qu'affirme une nouvelle fois à tort plusieurs vidéos vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux. Le mode opératoire est différent puisque l'Infox repose ici sur le détournement de journaux de médias reconnus. Visuellement, la vidéo est coupée en deux. Sur la partie haute, des images d'un chasseur présenté comme un Sukhoi 35 défilent. Mais en réalité, ce n'est pas un Sukhoi 35, mais un Eurofighter Typhoon. Et puis sur la partie basse, on y voit une journaliste en train de présenter un journal télé. Le tout est accompagné d'une voix générée par intelligence artificielle. Écoutez.
Le Mali a acquis le chasseur russe Su-35. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré cet avion de chasse multirôle survolant le ciel malien.
Cette voix synthétique prétend reprendre les propos des journalistes visibles à l'image, sauf qu'en réalité, les extraits utilisés n'ont aucun rapport avec le Mali ou des avions de combat. L'identité de France 24 et d'Africa 24 ont ainsi été usurpées dans le but de crédibiliser l'Infox. Mais sur le fond, le Mali ne dispose ni de F-35, ni de Sukhoi 35.
Et alors, vous avez regardé sur les réseaux sociaux qui diffuse cette Infox ?
Eh bien, on retrouve différents comptes influents sur TikTok qui désinforment régulièrement sur les capacités militaires des pays du Sahel. Certaines de leurs vidéos atteignent des millions de vues, notamment dans le contexte actuel tendu, on l'a dit, avec l'Algérie. Leurs publications sont constamment reprises par des dizaines de comptes qui propagent ensuite l'Infox sur d'autres plateformes, notamment Facebook et WhatsApp.
Merci Grégory Genevrier. Alors un petit rappel, attention au détournement de logos de grands médias connus. Il est toujours bon d'aller voir directement sur le site concerné pour vérifier l'authenticité de l'information. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Les dessous de l'Infox et les chroniques en images sont à retrouver sur notre site rfi.fr ou en tapant InfoVérif RFI dans un moteur de recherche. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Pierre Boudias.